Radio Okapi.
Oh, Okapi.
À la lune de ce journal, le projet de création d'une République fédérale du Congo figure parmi les principales révélations du rapport publié mardi par le groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC. Le document affirme que l'AFC-23 renforce son contrôle sur les territoires occupés où il met en place une administration parallèle et évoque également des liens avec l'ancien président Joseph Kabila. Pas de bulletin officiel dans plusieurs écoles à Kananga après la proclamation des résultats scolaires. Les responsables des établissements affirment ne pas les avoir reçus de l'inspection provinciale de l'éducation. Une situation qui alimente le mécontentement des parents contraints de se contenter des documents provisoires. Notre invité est Kamel Kajila, assistant social au centre Bakanja à Lubumbashi. Il explique comment les jeunes en rupture familiale sont accompagnés vers la réunification avec leur famille et leur insertion professionnelle après leur formation. Christian Makassing à la présentation, bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé au sommaire, l'AFC-23 ne se limite plus à une rébellion armée. C'est l'un des principaux constats du nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC, transmis au président du Conseil de sécurité. Les documents décrit un mouvement qui renforce son emprise militaire, met en place une administration parallèle dans le territoire qu'il contrôle et poursuit un projet politique visant une République fédérale du Congo. Le rapport évoque également les liens grandissants entre l'AFC-23 et l'ancien président Joseph Kabila. Le précision des Marcel Papimoukeba.
Les groupes d'experts de l'ONU estiment que l'AFC-M23 compte aujourd'hui environ 30 000 combattants. Selon les rapports, ces effectifs regroupent les noyaux historiques du mouvement, des recrues mobilisés depuis 2021, ainsi que d'anciens militaires des FRDC, policiers et combattants Wazalendo, ralliés après l'occupation de la ville de Goma. Les experts affirment également que la rébellion continue de bénéficier de l'appui de l'armée rwandaise. Ils évaluent entre 14 000 et 18 000 le nombre des soldats rwandais déployés au nord et au sud Kivu à la fin de 2025, sans retrait significatif depuis, mais avec des rotations et des renforts. Les rapports soulignent aussi que l'AFC-M23 a mis en place une administration parallèle dans les territoires sous son contrôle. Le mouvement a centralisé la perception des recettes, pris le contrôle de la SNEL et de la régie des eaux, remplacé la SONANS par une société privée d'assurance et organisé les territoires occupés en trois zones de défense. Sur le plan politique, les experts de l'ONU affirment que l'objectif du mouvement reste le renversement du gouvernement congolais ou, à défaut, la création d'une entité autonome baptisée République fédérale du Congo. Les rapports indiquent également que l'AFC-M23 chercherait également une reconnaissance officielle à travers les négociations et ambitionnerait de constituer la future armée de cette entité plutôt que d'intégrer ses combattants dans les FRDC. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
La publication des résultats scolaires laisse un sentiment d'inachevé à Kananga, dans la province du Kasaï central. Dans plusieurs établissements, les élèves quittent l'école sans leur bulletin officiel. À la place, certains reçoivent un bulletin provisoire ou un simple document représentant leurs résultats. Le responsable des écoles explique ne pas avoir reçu le bulletin de l'inspection provinciale de l'éducation nationale, une situation qui alimente les mécontentements des parents alors qu'ils s'acquittent chaque année des frais destinés à l'obtention de ces documents. Le point avec André Katendenga.
Les écoles de Kananga ont procédé ce jeudi à la proclamation des résultats conformément au calendrier scolaire. Mais un problème revient dans plusieurs établissements. Les bulletins officiels sont introuvables. À la place, des élèves repartent avec un bulletin brillant ou un simple papier indiquant leur cote.
Oui, je suis déjà proclamé. On n'a pas remis un bulletin, on a remis qu'un bout de papier avec le pourcentage. On est obligé de revenir après quelques jours pour reprendre le bulletin.
On nous a proclamé, mais on ne nous a pas donné le bulletin, on nous a donné la photocopie du bulletin.
Les parents dénoncent cette situation. Louis Mputu, parent d'élèves rencontré au centre-ville de Kananga, affirme payer les frais des bulletins depuis 2 à 3 ans sans jamais voir les bulletins officiels remis à ses enfants. Nous avons tenté de joindre l'inspecteur principal provincial de l'éducation sans succès. Selon des sources au sein de l'inspection provinciale, les bulletins sont toujours attendus de Kinshasa. En attendant, des milliers d'élèves terminent l'année scolaire sans leur bulletin officiel. officiel, une situation qui affecte le plus ceux qui vont étudier ailleurs dans d'autres villes ou pays. Tanana, André Katendengala Mouloumé, Radio Kapi.
Dans le même registre, l'année scolaire 2025-2026 est clôturée ce jeudi 10 juillet avec la proclamation de résultats aux élèves à travers la province du Maniema. À Kindu, comme dans d'autres localités, plusieurs des établissements scolaires, tant publics que privés, ont respecté ce rendez-vous marquant la fin de l'année scolaire. Malgré les défis liés aux crises sécuritaires et sanitaires qui ont émaillé cette période, parents, élèves et éducateurs se réjouissent de l'aboutissement heureux de l'année scolaire. Dans plusieurs écoles, l'ambiance est à la satisfaction, à l'émotion, à l'espoir pour les vacances et les prochaines séances scolaires. Florence Kizalunga nous fait vivre l'atmosphère qui a régné ce jeudi dans la ville de Kindu. Voici son reportage.
Nous sommes sur le boulevard Joseph Kabila à Kindu. Plusieurs familles célèbrent la réussite de leurs enfants par des cris, des sifflets, de musique accompagnée des danses de tout genre sur la voie publique, contrairement à la décision du maire interdisant toute réjouissance sur la place publique. Certains élèves rencontrés n'ont pas caché leur joie.
Je me sens heureuse car je passe en sixième année.
Moi, je reçois avec 62%, je passe en deuxième année. Et moi, je passe en quatrième année, je suis dans la joie.
Les parents qui les ont accompagnés ne sont pas restés indifférents.
Avec la conjoncture économique actuelle, madame, voir nos enfants terminer l'année en bonté comme ça, nous sommes reconnaissants à notre Dieu.
Les enseignants remercient les parents pour leur accompagnement.
Nous remercions les parents pour la confiance et leur accompagnement. Rendez-vous encore au mois de septembre.
À côté des écoles, des places sont aménagées pour la prise des photos souvenirs. Chacun se bouscule. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Toujours dans le même registre, en Ituri, la proclamation de résultats des fins d'année scolaire se déroule cette année dans un contexte particulier marqué par l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Pour éviter le rassemblement, seuls les parents sont autorisés à retirer le bulletin de leurs enfants afin de limiter le risque de propagation du virus. Une décision de la direction provinciale de l'éducation Ituri qui supervise notamment les écoles du territoire de Djougou et d'Irumou parmi les zones les plus touchées par Ebola. Reportage d'Isaac Remoyopé.
Habituellement, la proclamation des résultats rassemble des centaines d'élèves et des parents dans les écoles. Cette année, ces rassemblements sont interdits afin de prévenir la propagation d'Ebola. Les chefs d'établissement ont reçu l'instruction de remettre les bulletins uniquement aux parents dans le respect des mesures sanitaires. Yvon Mouquet, directeur provincial de l'éducation Ituri 1.
Sous épidémie. Alors, il faut prendre des mesures comme ça pour, n'est-ce pas, que l'on puisse prévenir la contamination des enfants.
Les parents saluent cette mesure qu'ils jugent indispensable pour protéger les élèves, notamment à Bounia, l'un des principaux foyers de l'épidémie.
Et c'est une bonne chose pour nous d'abord et ainsi que pour nos enfants. Parce que nous connaissons une période très difficile dans notre province de l'Ituri qui est touchée par l'épidémie à virus Ebola.
Dans les écoles, les parents sont accueillis à tour de rôle après lavage des mains et contrôle de la température avant de retirer les bulletins dans les salles de classe de chaque élève, où on a préfet du complexe scolaire Shalom.
On constaterait qu'il n'y a aucun élève ici. Nous avons donné l'instruction aussi à nos agents de sécurité d'empêcher ce que les élèves qui pourront tenter venir d'accéder à la concession.
Si cette mesure est largement comprise, de nombreux élèves regrettent de ne pas pouvoir célébrer leur récit avec leurs camarades avant les vacances. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et finissons avec ce chapitre. L'année scolaire 2025-2026 s'achève ce jeudi sur l'ensemble du territoire national avec la proclamation de résultats dans plusieurs écoles. Mais dans le secteur des Bapéré, en territoire de Loubéron au nord Kivu, les bilans est loin d'être réjouissants. Les attaques répétées des ADF ont entraîné la fermeture de plusieurs écoles, l'interruption de cours de déplacement de population et la délocalisation de certains établissements. Conséquence, certaines écoles poursuivent encore les enseignements pour rattraper le mois perdu. La société civile appelle les autorités à tout mettre en œuvre pour garantir une rentrée scolaire normale en septembre prochain. Écoutons Samuel Kaeni, président de la société civile du secteur de Bapéré, et l'autre téléphone de Martial Papi Moukeba.
L'année scolaire a connu plusieurs défis liés à la situation sécuritaire qui n'ont pas permis une bonne évolution et encadrement des apprenants. Il y a eu des interruptions des activités scolaires d'une manière momentanée dans certaines agglomérations. ouverture tardive des activités scolaires comme au chef-lieu du secteur de Bapéré. Il y a aussi des zones qui n'ont pas ouvert bien sûr les portes de l'école suite à cette insécurité qui a prévalu dans l'axe Butoumangouré-Jepal. Il y a aussi des localisations de certaines écoles au chef-lieu du secteur de Bapéré. Il y a des écoles qui n'ont pas encore fermé leurs portes. Vous savez, il y a seulement 2 mois depuis que les cours ont repris. C'est pourquoi nous sommes en train de demander. La Saint-Vibra appelle à un engagement pour que l'année qui va commencer, les écoles qui ont fermé puissent ouvrir leurs portes.
Changeons de chapitre, au Nord Kivu, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants portent encore les séquelles des bombardements et des explosions qui ont frappé Goma en janvier 2025. Grâce au programme du Comité international de la Croix-Rouge destiné aux victimes de guerre, beaucoup ont bénéficié de prothèses et poursuivent aujourd'hui leur rééducation au centre pour handicapés Shirika La Umoja. Parmi eux, Figuene Mabalungu et Sylvie, mère de 6 enfants et désormais veuve, elle a perdu son mari lorsqu'une bombe a frappé leur maison à la fin du mois de janvier 2025. Rosalie Sawadi l'a rencontré au centre de rééducation et retrace son parcours dans ses reportages.
Sur son visage se dessine un léger sourire alors qu'elle s'exerce pour la 2e fois à se lever sur ses nouvelles prothèses. Même si l'on devine encore la douleur au fond de ses yeux, cette aide du CICR allume en elle une lueur d'espoir.
Avec ces prothèses, j'ai l'espoir que je vais pouvoir y marcher, reprendre ma vie d'avant et chercher à répondre aux besoins de mes enfants, car dans cette condition, je ne peux pas le faire.
C'est cet espoir de remarcher qui l'aide à tenir chaque jour. Pourtant, rien ne pourra lui faire oublier la laideur de la guerre.
Normalement, la guerre, elle n'est pas bonne du tout. Si aujourd'hui je n'ai plus mes 2 jambes, je suis pas née comme ça. Je suis veuve. C'est à cause de la guerre. Ce que nous demandons, c'est la paix. Que la guerre prenne fin.
Aujourd'hui, Sylvie Nehema demande à tous ceux qui font la guerre de trouver d'autres moyens de régler leur conflit. Car elle le sait, même lorsque la paix reviendra, la photo de sa famille, elle, ne pourra plus jamais être reconstituée. Sur ses clichés précieux, elle tenait encore sur ses 2 jambes et son mari était là à ses côtés, entouré de leurs 6 enfants. Goma, Rosalie Sawadi, Radio Okapi.
Les travaux d'évaluation du projet Varsita se sont achevés jeudi 2 juillet 2026 à Kinshasa par l'adoption du plan de travail couvrant les 6 premiers mois des mises en œuvre avant les lancements fictifs des activités sur le terrain en 2027. Validé par le comité de pilotage, ce programme vise à atténuer les effets du changement climatique sur les populations tout en encourageant les initiatives innovantes et les transferts des technologies destinées à renforcer les capacités d'adaptation face aux défis climatiques. Portage de Béchindani rendu par Sephora Mpaka.
Au terme de la 2e journée de travaux, les représentants des services publics, de la société civile, du monde scientifique, des PME et des partenaires techniques se sont accordés sur une feuille de route destinée à lancer la mise en œuvre du projet Varsita. Selon les coordonnateurs du projet, Jean-Ilunga Mouneng, le comité de pilotage a approuvé le plan de travail et les budgets couvrant les 6 premiers mois d'exécution.
Aujourd'hui, nous avons reçu l'aval du comité de pilotage qui est l'organe habilité à valider nos plans de travail et le budget qui est associé à ces plans de travail. Le projet en lui-même, c'est un projet qui tourne autour de 9 millions de dollars, qui porte sur 4 ans dans sa première phase et 7 ans dans sa phase complète.
De son côté, la secrétaire générale du ministère de l'Environnement, Mbangu Kikumi Pascaline, a indiqué que cette première phase sera essentiellement consacrée à la mise en place des structures de gestion au recrutement des consultants.
Dans un premier temps, le projet pour les 5 mois de l'année, ils vont mettre en place l'unité de gestion des projets, ils vont recruter les consultants, ils vont préparer les guides. Il y aura le renforcement des capacités parce qu'il y a le thème de l'adaptation et atténuation du changement climatique.
Doté d'un financement d'environ 9 millions de dollars américains, le projet Varsita est prévu pour une première phase de 4 ans, avec une possibilité d'extension à 7 ans. Les 7 premiers mois seront consacrés à la mise en place de mécanismes de gestion avant le lancement effectif des activités sur le terrain en 2027.
À Bougnat, plusieurs poubelles publiques récemment installées par la mairie à différents endroits de la ville ont disparu seulement 2 jours après leur mise en place. Un acte de vandalisme que déplore vivement l'autorité urbaine qui avait initié cette opération dans le cadre de l'assainissement de la ville et de la prévention des risques sanitaires, particulièrement dans un contexte marqué par la menace de l'épidémie à virus Ebola. Pour constater l'ampleur du phénomène et recueillir les réactions des habitants ainsi que celles des autorités, Martial Kizabiamungo a fait le tour de la ville. Voici son reportage.
Au total, 20 poubelles publiques de moitié des filles de 200 litres peintes tablées ont été installées sur les différentes artères du centre-ville de Bougnat. Selon le maire de la ville, le commissaire supérieur principal Bosco Mouikola, cette opération s'inscrit dans le cadre du programme d'assainissement de Bougnat lancé il y a un peu plus de 2 ans dans les buts d'améliorer la salubrité urbaine. Seulement quelques jours après leur installation, le maire Kola déplore le vol de certaines poubelles par des civique.
Je voudrais rendre la ville propre et puis les chèques aussi, ils ont volé ça.
L'installation des poubelles publiques a été saluée par les habitants de Bougnat, habitués à se débarrasser de leurs déchets sur la chaussée ou les rigoles, faute d'endroits indiqués où les jeter. C'est le cas de ce jeune conducteur de triporteur retrouvé sur le boulevard de la Libération vers le marché central de Bougnat, où des poubelles publiques ont été installées samedi dernier.
Nous disons merci au maire de la ville, mais nous lui demandons de nous ajouter des poubelles.
Le maire Bosco Kola indique également avoir disponibilisé un véhicule pour l'évacuation régulière de déchets vers une décharge publique déjà aménagée. Bougnat, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Finissons avec l'infrastructure. L'avenue Mission, située dans la commune de Nzanza, fait actuellement l'objet de travaux de réhabilitation sur une distance d'environ 900 mètres. Cet axe routier stratégique relie l'entrée du camp Banana au marché Pompage et constitue une voie importante pour la mobilité des habitants. Les travaux seront exécutés par l'Office de voirie et des drainages grâce au financement du Fonds national d'entretien routier. La durée d'exécution est d'environ 6 mois, hors contrainte liée aux intempéries. À terme, cette réhabilitation devrait améliorer significativement les conditions de circulation, renforcer la sécurité des usagers et faciliter les échanges entre les différents quartiers desservis par cette avenue. Élise Kavira.
La joie est grande chez les habitants d'Nzanza. Chaque jour, les automobilistes, motards, commerçants et riverains avaient beaucoup de difficultés pour circuler à cause du mauvais état de la route. Pour Michuntita, une usagère régulière, la réhabilitation de cette avenue vient mettre fin à un long calvaire.
Cette route nous a vraiment fait souffrir. On se demandait si les autorités voyaient comment elle s'est dégradée chaque jour. Surtout, nous, les mères des familles, aller au marché tous les jours, ça devient compliqué, même pour aller à l'école. Beaucoup d'enfants se sont blessés ici à cause de trous qui sont créés, surtout quand il pleut. Vraiment, nous disons un grand merci.
Pour sa part, le directeur provincial de l'OVD, Michel Kayembe, rassure la population que les délais seront respectés et qu'elle aura une avenue neuve d'ici la fin de l'année.
Comme vous savez, c'est la saison sèche. Nous allons mettre toutes les batteries pour aller rapidement. Et surtout que nous avons aussi une érosion. Mais nous rassurons à la population matadienne, à tous les amis de Nzanza, que d'ici novembre, décembre ou plus tard, la route sera praticable.
Le directeur Michel Kayembe invite la population de Nzanza à s'approprier ce projet dont elle est la principale bénéficiaire en respectant les consignes afin d'atteindre les résultats attendus. Matadi, Élise Kavira, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Kiev vient de subir la pire attaque russe depuis le début de la guerre, selon la mairie de la ville. La capitale ukrainienne a vécu une nuit de mercredi 1er à ces jeudis 2 juillet particulièrement violente. De frappes massives ont été menées sur plusieurs quartiers, en fait, selon un dernier bilan, au moins 17 morts et 86 blessés. En réaction, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé davantage de soutien pour sa défense anti-aérienne à ses alliés.
L'invité.
Notre invité est Kamel Kajila, assistant social au centre Bakanja, qui encadre des jeunes en rupture familiale à Lubumbashi. Il explique comment s'est fait la réunification des jeunes dans leur famille après leur encadrement au centre. En outre, il revient sur l'intégration professionnelle de ces jeunes qui obtient du travail dans certaines entreprises après leur formation professionnelle. Kamel Kajila s'entretient avec Paulin Munanga.
Monsieur Kamel, bonjour.
Bonjour.
En tant qu'assistant social, qu'est-ce que vous faites exactement sur le terrain?
En tant qu'assistant social, ce que nous faisons la réunification des familles. Nous travaillons avec des jeunes qui ont connu des petits soucis en famille, c'est-à-dire ils se sont séparés avec la famille pour plusieurs raisons. Alors notre travail, c'est d'essayer de gérer les conflits qui existent entre l'enfant et la famille pour permettre à ce que l'enfant, avant qu'il termine chez nous sa formation, qu'il soit accepté et qu'il rentre en famille. Parce qu'on estime le lieu où l'enfant peut mieux vivre, c'est en famille.
Parvenir à réunifier un enfant avec sa famille, est-ce que cela est facile?
Facile, je ne dirais pas que c'est facile, mais des méthodes, par le courage, et par cette capacité d'aller vers la famille, de comprendre leurs soucis et de travailler avec l'enfant, on arrive quand même à réunifier l'enfant et la famille. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas tous les enfants qui rentrent en famille. Il y en a pour qui c'est vraiment difficile de se fermer. Soit c'est l'enfant qui ne veut pas, ou soit c'est la famille qui ne veut pas. Alors c'est le genre de cas aussi, on encourage les jeunes à s'installer, et surtout quand il arrive à trouver un travail, ça devient facile, comme ça il peut s'installer et il peut continuer sa vie.
Quelles sont les réactions souvent des parents lorsque vous les rencontrez pour chercher à réintégrer leurs enfants?
Généralement, la première réaction, elle a toujours été les refus. Beaucoup de parents refusent pour la première fois quand vous arrivez, mais quand vous les expliquez ce que vous faites, ce que vous êtes en train de poursuivre et l'objectif, petit à petit, il y a des parents qui réagissent positivement. Et donc, c'est comme ça que notre travail demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, et petit à petit, il y en a qui arrivent à répondre positivement à notre besoin. Et surtout, ce qui nous facilite, c'est que nous travaillons avec des garçons qui ont déjà 15 ans au-delà. Et quand les parents comprennent par rapport à la formation qu'ils suivent ici les garçons, qu'ils comprennent que les garçons ne sera pas vraiment une charge comme telle, mais ça peut être aussi une source pour les parents de revenir et facilement on les accepte.
Combien d'enfants avez-vous déjà réussi à réinsérer dans leur famille?
En tout cas, cette question, je ne répondrai pas avec exactitude parce que ça fait quand même autant d'années, mais j'estimerai au-delà de 100. En tout cas, c'est plus. On a travaillé avec des garçons et des jeunes, mais peut-être par année, on peut répondre. Mais on a déjà réussi à réunifier beaucoup de familles.
Et qu'est-ce qui fait que ces enfants se retrouvent sur la rue? Quelles sont souvent les raisons?
En tout cas, la première raison, c'est la pauvreté. Mais il y en a aussi qui parlent de la sorcellerie. Il y a aussi la séparation des parents, la mort, le divorce. C'est parmi les causes qui poussent vraiment beaucoup de jeunes garçons à se retrouver sur la rue.
Comment se fait l'insertion professionnelle des enfants qui ont terminé leur formation ici chez vous?
Oui, l'insertion professionnelle, au fait, nous proposons des visites dans les entreprises et des stages pour les jeunes qui sont en année terminale. Ce qui fait que, par exemple, cette année, on a eu à envoyer les jeunes pendant 3 mois dans les entreprises et c'est les 15 derniers qui ont terminé leur stage parce qu'ils se préparent déjà au jury. Au travers les stages comme ça et les visites, nous prenons contact avec les entreprises. Et probablement, les jeunes qui sont distingués pendant les stages, ils sont rappelés après, retenus comme travailleurs. Et généralement, ça va. Il y a beaucoup de jeunes qu'on retient comme ça dans les entreprises.
C'est quel sort de travail, par exemple?
Nous avons les soudeurs, il y a des constructeurs, il y a aussi des couturiers ou couturières. Cette année, on a travaillé avec les soudeurs, les constructeurs et les couturiers. Donc, ça fait les 3 métiers qu'on a présentés cette année. L'agriculture aussi, oui. Il y a des jeunes qu'on a amenés dans la ferme, donc il y a les agronomes aussi. Et donc, après leur stage comme ça, il y a des entreprises qui sollicitent certains jeunes qui sont distingués et nous leur demandons juste de nous permettre à ce que les jeunes terminent les jurys et puis après ils vont partir travailler, continuer leur vie.
Et pour ceux ou celles qui apprennent à conduire par exemple une moto, comment est-ce que ces jeunes sont insérés professionnellement? Est-ce qu'ils trouvent facilement du travail?
Oui, ceux qui apprennent à conduire les motos, on les met en contact avec l'entreprise qui vend et qui entretient les motos. Donc là, ils ont des possibilités. Soit ils peuvent prendre la décision de continuer à rouler, devient motard et puis on le paye. Et avec cette possibilité, soit d'être retenu dans cette entreprise, comme ça il devient aussi travailleur. Donc on a des contacts comme ça avec des entreprises selon les domaines pour la réinsertion professionnelle des jeunes.
Monsieur Kamel, je vous remercie.
À moi aussi de vous remercier pour votre visite.
Fin de cet échange avec Kamel Kajila, assistant social au centre Bakanja, qui encadre des jeunes en rupture familiale à Lubumbashi. Il répondait aux questions de Paulin Munanga. C'est ici qu'est point fin ce journal de 18h. Christian Makassing l'a présenté sous la coordination de Jude Mister Bilanda et Jean-Claude Thia l'a assuré la mise en onde. Merci de faire confiance à Radio Okapi. Ce journal est à réécouter en podcast sur notre site www.radiookapi.net et toute actualité en continu sur nos différentes plateformes numériques. Profitez de la suite de nos programmes et on se retrouve à 19h pour les derniers bulletins d'information de ce jour.